France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Wikipédia, c'est le site qui a changé les repas de famille dans le monde entier. Quand on se dispute désormais sur un fait historique, sur la date de naissance d'un acteur, sur la biographie d'un auteur, il y a toujours quelqu'un autour de la table pour dire « bon, bougez pas, je regarde la fiche Wikipédia qui mettra tout le monde d'accord ». Mais Wiki, c'est bien plus que ça. Désormais, dans le top 10, dans le top 10 des sites les plus visités du monde, 20 milliards de pages vues, des contributeurs dans 300 pays, désormais aussi une lourde responsabilité. Wikipédia est devenue pour beaucoup la référence. Comme on dit chez Spider-Man, quand on a de grands pouvoirs, on a aussi de grandes responsabilités. Spider-Man, entre parenthèses, apparu pour la première fois dans un comic en août 1962, je le sais, je l'ai lu dans Wikipédia. La référence, d'autant que Wiki a avalé les encyclopédies Universalis et Britannica, dont la version papier n'existe plus. La référence parce que depuis 20 ans, Wikipédia, sur son créneau, est tout seul. 20 ans, naissance le 15 janvier 2001. Tout Internet a changé depuis ces 20 dernières années. Pas Wiki qui reste l'outil collaboratif et participatif, sans pub, de référence. Critiqué, parfois aussi méprisé pour certaines inexactitudes, par certains. Mais désormais aussi ultra surveillé pour éviter le n'importe quoi dans ses pages. Wiki reste basé aussi sur le bénévolat. Alors qui sont les fameux contributeurs? Qui peut écrire quoi? Comment sait-on instantanément que quelqu'un modifie un article? Qui vérifie les faits dans les contributions? Quelles sont les règles écrites de Wikipédia? Est-ce que c'est un exemple, au fond, pour Internet ou pas? On en parle ce soir et soyez les bienvenus dans le Téléphone Sonne.
Le Téléphone Sonne. 01 45 24 7000.
Allez Caroline, c'est vous la première. Bonsoir et soyez la bienvenue.
Bonsoir et meilleurs vœux à tout le monde.
Merci, meilleurs vœux à vous Caroline. Allez-y.
Oui, j'étais professeure de lettres et puis il y a 10 ans déjà, mes élèves avaient le réflexe de regarder tout de suite sur Wikipédia pour faire leurs recherches. J'étais très récalcitrante et puis j'ai toujours voulu les inciter à chercher ailleurs, à aller approfondir des notions. Jusqu'au jour où moi-même, j'ai voulu en savoir plus sur une notion, la notion de kairos, c'est une notion philosophique. Mmh. Et c'est sur Wikipédia que j'ai trouvé une explication. J'étais assez étonnée. L'explication était très détaillée, très référencée, très claire. Mmh. Et puis, j'ai voulu en savoir plus. J'ai vu qu'il y avait un vrai auteur qui habite Dijon. Et ça a donc modifié mon point de vue. Ça m'a même poussé à contribuer financièrement à ce projet. Puis en fait, je me rends compte que Wikipédia réalise aujourd'hui réalise depuis 20 ans à l'échelle planétaire, finalement le projet encyclopédique des Lumières, avec en plus sa gratuité. Donc voilà.
Donc vous y allez toujours, Caroline, j'imagine, désormais.
Je continue à y aller, de façon avec plus de discernement, mais aussi plus d'engagement. C'est vrai que je pratique plus
et
souvent.
Mais pas au point de devenir contributrice, en revanche, ou pas encore, peut-être.
Peut-être pas encore.
Eh ben écoutez, peut-être que ce soir, nos invités vous en donneront envie, allez savoir. En tout cas, merci beaucoup pour cette entrée en matière, Caroline, et ce démarrage. Pour parler ensemble jusqu'à 20h, Marie-Noëlle Doutrex est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université Lyon 2. Vous avez écrit Wikipédia et l'actualité aux presses Sorbonne Nouvelle cette année 2020, enfin l'année dernière, si je puis dire. Et Rémi Gerbet est là aussi. Bonsoir, monsieur Gerbet.
Bonsoir.
Vous êtes délégué opérationnel de Wikimedia France,
de l'association
Wikimedia France d'ailleurs, pour être tout à fait honnête. Il y en a beaucoup, j'imagine, Rémi Gerbet, au fond, pendant ces 20 dernières années, des Caroline, qui au départ disent « attendez, c'est quoi ce truc? Qui écrit là-dedans? Rien ne vaut la bonne vieille encyclopédie bien lourde », et puis qui réalisent au fond que c'est beaucoup plus sérieux que ça pouvait en avoir l'air au début en réalité.
Oui, en effet, c'est vrai que Wikipédia est apparu un petit peu en 2001 comme un projet un peu révolutionnaire qui re-questionnait un petit peu la place de l'expert dans la diffusion un peu de savoir. Et si Wikipédia n'est pas exemple de faille, il est vrai qu'en 20 ans, la communauté de contributeurs a réussi à mettre en place des pratiques, des règles, des normes, des façons de collaborer qui ont grandement amélioré l'encyclopédie et qui font qu'aujourd'hui, elle est de plus en plus fiable.
Est-ce que vous diriez, Marie-Noëlle Doutrex, vous qui avez le recul aussi, puisque vous avez travaillé vraiment dessus, que au fond, Wiki a dû se professionnaliser, dépassé par son propre succès, sans imaginer que ça deviendrait aujourd'hui l'un des 10 sites les plus consultés dans le monde?
Alors justement, on dit souvent que Wikipédia n'a pas d'experts, c'est en partie faux, puisque parmi tous les contributeurs, il y a des contributeurs qui en effet contribuent sur un article qu'ils ne maîtrisent pas à l'origine, et d'autres qui sont des enseignants, ou même des enseignants-chercheurs, et qui participent aussi sur leur domaine de spécialité.
Justement là-dessus, Rémi Gerbet, moi ça m'a toujours intrigué. Qui sont les contributeurs ? Là, Caroline nous donne un exemple, on est quand même dans une notion philosophique qui est extrêmement pointue. Donc dans ces moments-là, est-ce que c'est lui qui propose, vous avez un prof de philo dont les contributeurs, et il propose, donc la notion arrive sur Wiki, est-ce que quelqu'un le lui suggère ? Et est-ce que si moi j'étais contributrice, mais pas du tout philosophe, je pourrais m'atteler à ce genre d'article ? Est-ce que je mets des guillemets, est-ce qu'on me laisserait faire ?
Oui, complètement, puisque le principe de Wikipédia...
Ce serait dangereux, laissez-moi vous dire.
Après, on devient expert aussi en travaillant ces sujets, et beaucoup de contributeurs deviennent experts en fait de sujets au fur et à mesure qu'ils approfondissent un article qu'ils souhaitent créer. Mais le principe de Wikipédia est toujours le même depuis 20 ans. C'est de laisser toujours la porte ouverte à toute personne qui souhaite apporter sa pierre à l'édifice. Et dans le cadre de la notion de Kairos, du coup, qui a été mentionnée par votre auditrice, il serait possible que ce soit un professeur de philosophie qui soit rendu compte qu'il manquait cet article-là et qui de lui-même a été créé ce nouvel article.
Mais ça veut dire que si moi je m'intéresse à Louis XIV, alors bon, Dieu sait que cette page de Louis XIV est déjà remplie, c'est pas le bon exemple, mais peu importe, je peux moi, qui ne suis pas historienne, qui ne suis pas spécialiste de l'époque, qui n'ai rien de tout ça, je peux moi, Marie-Noëlle Dutrex, écrire la contribution sur Louis XIV si je veux.
Oui, tout à fait, mais pour ça il faut que vous ayez des sources, des ouvrages d'historiens, pas forcément seulement. Donc vous référenciez les informations que vous ajoutez à cet article de manière à étayer votre propos.
Et qui est la première personne qui jettera un œil sur mon travail ? Comment ça se passe ? Parce que, imaginez, je suis un peu approximative, je fais mon travail très consciencieusement, avec un peu d'approximation, c'est un long papier, parce que ça a été un long règne. qui est le premier à jeter un œil dessus et commence à mettre des petits drapeaux, si je puis dire ? Comment ça marche dans le processus ?
En fait, sur Wikipédia, il est possible de suivre en temps réel toutes les contributions sur l'encyclopédie, et dans votre cas, vous seriez du coup une nouvelle contributrice, vous contribueriez avec un compte qui serait nouveau, donc qui serait rapidement identifié par la communauté, et un contributeur lambda passerait voir ce qui s'est passé, regarderait un peu l'article, est-ce qu'effectivement l'intention est bonne de la personne, et puis peut-être qu'il vous enverrait un petit message sur votre page de discussion pour dire très bien ce que tu as commencé à faire, je vais t'aider en wikifiant un petit peu l'article, en
t'aidant un
peu. Oui, c'est ça, c'est un petit peu aider un peu la mise en page. Peut-être également, il y a un projet qui s'appelle le projet Histoire, sur qui va, c'est des contributeurs qui sont fans d'histoire, ils vont peut-être venir t'aider aussi, et donc tout cela se fait de manière naturelle et forcément sympathique.
Jean-Baptiste, bonsoir. Bonsoir Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, on a perdu Jean-Baptiste.
Oui, bonsoir.
Ah, on a retrouvé
bonsoir,
Jean-Baptiste.
Merci de prendre mon témoignage.
Je vous en prie, allez-y.
Donc moi, j'ai commencé à utiliser très tôt Wikipédia quand j'étais collégien. Et aujourd'hui, j'ai 27 ans et je l'utilise quotidiennement, au point d'être devenu effectivement contributeur financier aussi la plateforme en soutien finalement à leur démarche bénévole. Et ce que je voulais souligner, c'est aussi la manière dont ils ont réussi à s'adapter à tous les domaines. En particulier, ils ont déployé une plateforme qui s'appelle WikiFandom, où en fait, pour différents, que ce soit des fans de séries, des fans de Star Wars, des fans de différents univers, qui alimentent en cette plateforme aussi parallèle, dédiée à cet univers dont ils sont fans. Et c'est une vraie réussite parce que c'est tout aussi bien documenté avec les références. Si on parle d'un roman, des références aux pages, si on parle d'une série avec des références aux épisodes. Et c'est vraiment, ils ont réussi à s'adapter totalement là-dessus.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Jean-Baptiste. Est-ce que ça veut dire, Marie-Noëlle Dutrex, qu'au fil de ces 20 ans, non seulement Wikipédia s'est professionnalisé, a des routines maintenant qui sont évidemment plus fluides et plus simples, mais qu'aussi tout cela s'est beaucoup rajeuni, en fait, quand on voit le fandom, qu'on parle de Star Wars, etc. C'est pas les mêmes qui font ce genre de contributions et qui parlent de notre ami Louis XIV qu'on évoquait tout à l'heure. Donc est-ce qu'il y a un panel de contributeurs qui s'est vraiment bouleversé ces dernières années ?
Oui, on peut dire ça comme ça.
Un profil, en tout cas, du contributeur.
Oui, alors à la base, il y avait surtout des informaticiens qui ont contribué au projet dans les premiers temps. En effet, maintenant, il y a les nouvelles générations qui commencent à contribuer. Certains ont entendu parler de Wikipédia justement dans le cadre scolaire. On leur a appris à contribuer puisque la Fondation fait aussi des partenariats avec les écoles à ce niveau-là. Après, les questions qui restent, c'est la diversification des contributeurs en termes de genre et en termes de pays, puisque la Wikipédia en français, c'est la Wikipédia pour tous les pays qui parlent français, et très majoritairement, ce sont des contributeurs français qui écrivent les articles, ce qui peut poser en effet un problème.
Est-ce que ça veut dire d'ailleurs que tout ce qui est... est-ce que les pages anglaises sont traduites en gros en français par les contributeurs français? Est-ce que ce sont les mêmes contributeurs qui font aussi des traductions? Ou est-ce que sur un certain nombre de choses qui existent sur un wiki dans une autre langue, on le refait en français pour le lecteur français? Comment ça marche, Rémi Gervais?
Certaines pages, effectivement, peuvent être traduites directement d'une version d'un outil de Wikipédia à une autre. Mais à partir du moment où la traduction est effectuée, en fait, après, les deux articles vont vivre séparément. Et donc, ensuite, ils vont être alimentés, en fait, séparément l'un de l'autre. Par contre, ces articles sont reliés, sont connectés un petit peu ensemble grâce à un autre projet Wikimedia qui s'appelle Wikidata, qui permet de lier tout de même tous ces articles ensemble et de bien montrer que tel article en pays anglophone, on parle bien du même sujet que sur la Wikipédia en français, par exemple.
À quel moment on arrive à repérer qu'il peut y avoir eu pas seulement une erreur, parce que mais aussi un vandalisme, c'est comme ça que vous appelez ça, des trolls qui viennent sur un certain nombre de sites. Combien de temps ça prend en fonction de la page? Parce que j'imagine que si quelqu'un vient sur la mienne, on va pas s'en rendre compte avant un bout de temps, parce qu'on s'en fout un peu. Si on fait la même chose sur la page d'Emmanuel Macron, là on s'en rendra compte plus vite. En fait, pour pouvoir le corriger. Comment ça marche, ça, en fait?
Alors, ça dépend. Il y a plein de mécanismes de sûreté, effectivement, sur Wikipédia. Vous citez la page du président Emmanuel Macron. Cette page-là, déjà, elle est protégée. C'est-à-dire que...
On ne peut pas venir l'éditer
comme ça
facilement. Intéressant, il y a combien de pages qui sont protégées?
Plusieurs centaines, et ça évolue beaucoup, en fait. En fonction de l'actualité, par exemple, il y a des pages qui sont plus protégées que d'autres, pour des protections semi-longues, très longues, etc. Ça évite notamment que des contributeurs non identifiés viennent modifier ces pages. Là. De manière plus globale, sur
Pardon, c'est par exemple, est-ce que tout le gouvernement est-ce que tous les hommes politiques en vue, par exemple, sont sur ce genre de pages non modifiables?
Non, pas tous, en effet. Ces moyens de protection vont être activés par la communauté quand ils vont détecter des vandalismes réguliers.
D'accord.
On dirait là, ça fait quelques temps que cette page-là est souvent modifiée à des fins pas très productives. On va mettre une petite protection le temps que ça se calme, en général. Mais le principe étant toujours d'essayer de laisser la porte ouverte au maximum, cette protection est amenée à disparaître au bout d'un moment, dans tous les cas.
Alors comment ça se passe si quelqu'un vient sur ma page à moi, par exemple, que je n'ai pas ouvert, que je n'ai pas ouverte moi, puisqu'on sait théoriquement c'est interdit. Comment on s'en rend compte sur les pages très anonymes, en fait? Comment on s'en rend compte? Comment ça marche? Comment je peux savoir que quelqu'un n'a pas écrit? Et sinon, Fabienne Synthèse mange des chats tous les matins au petit déjeuner. Sérieusement.
Alors, il y a différents types de vandalisme. Pour les vandalismes les plus évidents, comme l'ajout de grossièreté, d'insultes ou d'informations qui sont fausses de manière évidente, il y a des bots qui arrivent à les identifier. Tout à fait. Et à les supprimer, c'est-à-dire à revenir à la version précédente en quelques secondes, quelques minutes. Ça, c'est assez
facile. Pour ce genre de cas, comme celui que je citais, par exemple, oui, ça, j'imagine qu'un robot peut le faire. Maintenant, s'il est écrit... j'en sais rien, s'est présenté à telle élection alors que c'est faux, etc. Est-ce que c'est crédible quand même? Donc qu'est-ce qui fait le robot dans ces cas-là?
Après, heureusement, il y a une modération humaine qui est complètement nécessaire. C'est le cas pour Wikipédia, mais c'est le cas de manière plus générale pour les réseaux sociaux. Et cette contribution humaine, elle peut se faire donc grâce à des listes de suivi. On peut suivre votre article. Enfin, l'article vous concernant directement, si le sujet intéresse quelqu'un. Si quelqu'un vous connaît particulièrement sur votre carrière, etc. Ou certains contributeurs sont abonnés aux dernières modifications. Donc, ils suivent les dernières modifications, quelle que soit la thématique. Ils se spécialisent là-dedans.
Ça veut dire que ça peut durer un certain temps quand même avant qu'une erreur soit enlevée, non, Rémi Gervais, parfois?
Potentiellement, oui, potentiellement. Effectivement, il y a toujours des petites zones dans Wikipédia qui ne sont pas forcément très surveillées. Ou si un fait d'actualité va focaliser un peu la communauté sur des sujets très chauds, évidemment, une erreur peut toujours passer à travers le filtre. Maintenant, globalement, la communauté est quand même assez organisée, on suit les modifications en temps réel, donc si déjà il y a une modification qui est faite, par quelqu'un qui n'est pas de la communauté, qui n'a pas de compte.
D'accord.
Et qu'en plus, il n'y a pas de référence ou il n'y a pas de source, il n'y a pas moyen de vérifier que l'information ajoutée est correcte. La sécurité va vouloir de supprimer cette information.
Donc si on s'amuse, si j'y vais là maintenant sur Wiki et que là je choisis Louis XVI et que j'écris mine de rien Louis XVI est mort de sa belle mort des années après la Révolution, à votre avis combien de temps ça prend ?
À mon avis, sur le cas de Louis XVI, ça prendra même pas une minute.
Ouais.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ces histoires et qui vont avoir Louis XVI dans leur liste de suivi et qui vont très vite repérer la modification.
Voici Maxime, encore un prof, encore un professeur. Dites-moi, bonsoir Maxime, on vous écoute.
Oui, bonsoir, bonne année, meilleurs vœux et merci pour la qualité de vos propos. C'est toujours agréable de vous entendre.
Merci.
Ma question initiale était qui vérifie. Bon, il y a des éléments de réponse qui ont été apportés, mais je souhaitais apporter davantage un témoignage, un ressenti, c'est qu'effectivement, je suis professeur. Et pour ce fait, mes étudiants utilisent allègrement Wikipédia avec la fameuse typo.
Manie le copier-coller.
Voilà, c'est emblématique. J'avais un témoignage et un ressenti, c'est que finalement, Wikipédia, il n'y a pas forcément de limite aux savoirs qui sont partagés. Et donc, mes étudiants se retrouvent à être peu sollicités sur l'esprit de synthèse. Mmh. Et je voulais savoir s'il y a finalement une limite à toutes les données qu'on peut allègrement partager sur Wikipédia, s'il y a des capacités qui peuvent être atteintes un jour. Et voilà, tout simplement, ces témoignages-là et merci.
Merci beaucoup, merci pour votre témoignage. Rémi Gerbet, comment on peut aider notre ami professeur ?
Alors effectivement, déjà, Wikipédia étant une encyclopédie, tous les savoirs ne vont pas sur Wikipédia. Il y a d'autres projets qui collectent d'autres savoirs, comme le Wiktionnaire, Wikidata, Wikicommons, etc. Donc Wikipédia n'est pas seul dans cet univers-là. Ensuite, effectivement, non, aujourd'hui, il n'y a pas de limite préétablie. Il y a même encore des pans entiers de savoir et de culture qui manquent sur Wikipédia. On a parlé de la question de la diversité. C'est vrai qu'il nous manque les cultures, beaucoup de cultures africaines, des cultures de peuples autochtones, la diversité, des biais de genre importants, biais linguistiques également. Le savoir aujourd'hui est diffusé principalement via Wikipédia sur les grandes langues. Il nous manque énormément d'informations et détails. Donc, la tâche est encore très loin d'être achevée.
Alors justement, tiens, qu'on écoute Sophie. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Fabienne.
Je vous écoute.
Merci de me prendre mon appel. Alors moi je suis contributrice depuis plusieurs années maintenant. Je participe notamment au projet des 100 pages, donc il y a un projet qui a pour but de réduire le biais de genre sur Wikipédia. Il y a à peu près 500 000 biographies de personnes sur Wikipédia, mais il y en a moins de 20% qui sont des femmes. Et
18% même, j'ai lu moi un chiffre, ce qui est un excellent papier sur franceinter.fr, figurez-vous, c'est en ce moment même, et 18% de biographies de femmes.
Et en fait, ce que je voulais dire, ce qu'on n'a pas abordé, je crois, dans l'émission, c'est l'admissibilité des articles. Aujourd'hui, pour créer un nouvel article, il faut s'assurer qu'il soit admissible. Mmh. Et l'admissibilité passe notamment par avoir, pour une biographie par exemple, deux articles dans un grand journal, donc quotidien national ou international. Mmh. Et en fait, ça pêche pour les femmes, ça pêche parce que les journalistes ne s'intéressent pas ou encore trop peu à ces questions-là. Et comme ils ne s'y intéressent pas, on ne peut pas créer les pages Wikipédia.
Donc c'est le diable qui se mord la queue, en fait.
Voilà, exactement. Mmh. C'est un cercle vicieux. Mmh. Et donc c'était plutôt un appel à tous les journalistes à essayer de faire des articles qui soient non pas des entretiens, parce qu'il y a beaucoup d'entretiens avec des femmes, mais ils ne sont pas admissibles pour Wikipédia. C'est de la parole pure, de la source primaire, donc c'est pas ce qu'on recherche, mais plutôt des articles de synthèse sur des personnes qui sont dans l'actualité, et ça nous permettra, nous, de pouvoir enrichir Wikipédia et de créer de l'information.
Merci beaucoup, Sophie.
Merci, Fabienne.
Excellente remarque, Marie-Noëlle Doutrex, et je pourrais vous poser la question à vous aussi, Rémi Gerbet, et elle a raison, c'est un cercle vicieux, s'il n'y a pas de source, il ne peut pas y avoir d'article, et comme on écrit moins sur les femmes, donc il y en a encore moins, les femmes et d'autres d'ailleurs, et comme il y en a donc encore moins sur Wikipédia. Faudrait-il bousculer la règle de ces fameuses deux sources écrites par des papiers, des grands médias généralistes ?
Oui, tout à fait. Donc déjà, c'est important de rappeler que Wikipédia reproduit les biais de genre présents dans les médias. Et de manière générale, reproduit aussi certaines approximations qu'il peut y avoir dans les médias, puisque notamment sur les sujets d'actualité, puisque Wikipédia s'appuie sur
les articles. Si la source sont les médias, effectivement, à un moment, on tourne dans un cercle vicieux.
Tout à fait. Et donc, en effet, on pourrait penser que la communauté pourrait faire un effort pour être plus souple de ce point de vue-là au niveau des critères d'admissibilité, voire les revoir, de manière à prendre en compte ces cas-là qui sont importants. D'ailleurs, pour l'anecdote, sur la page de discussion de votre article, il y a marqué admissibilité, l'une des rares femmes à avoir une matinale à la radio.
Ah, c'est vrai, vous avez été regardée sur ma fiche, je trouve ça très drôle. Moi, par exemple, je ne sais pas qui l'a ouverte, cette fiche. En revanche, j'ai vu les passages de modification. Parce qu'il y en a eu visiblement à un moment, il y a même eu des corrections. Est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux faire, moi, en fait, si je vois qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas sur ma page, en quelque sorte?
La manière la plus correcte de faire, c'est de signaler ces passages que vous aimeriez modifier en discussion de l'article. Ça peut être discussion de l'article.
Donc on est d'accord, j'ai pas le droit de le faire moi-même.
C'est vrai, c'est vivement déconseillé, d'accord, effectivement.
Ouais. Ça n'aurait pas de sens.
Parce qu'effectivement, vous avez, enfin, comme vous parlez de vous-même, vous aurez du coup une approche qui sera considérée comme non neutre. Donc l'idée, c'est bien d'aller en page de discussion de l'article, de dire, voilà, écoutez, c'est l'article qui me concerne, voilà les éléments que j'aimerais apporter en plus à l'article ou modifier, et ensuite de discuter avec la communauté pour améliorer l'article en question.
Alors justement, on va rester sur le même thème grâce à Philippe. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Allez-y, surfez sur le moment du débat où nous en sommes en ce moment.
Merci pour vos émissions et merci au travail que vous faites. Je voulais poser la question suivante parce qu'elle me taraude depuis un certain temps. Je me dis, tout le monde peut être amené à être contributeur, si j'ai bien compris. Et en particulier, on peut décider que, tiens, je connais telle personne, elle a un intérêt public, on va dire, et je voudrais créer une fiche pour cette personne, sans forcément demander son accord, d'ailleurs. Est-ce que ça, c'est possible? Et si jamais c'est possible, est-ce que la personne en question, qui va d'un seul coup se retrouver sur Wikipédia, va pouvoir porter une réclamation en disant « Oui, je suis tel personnage, mais je n'ai pas envie d'être sur Wiki. Est-ce que c'est possible ?»
Alors, je vais pouvoir, moi, répondre à titre personnel au début de votre question, parce que en effet, personne ne vous demande rien pour ouvrir une page. En revanche, est-ce que je pourrais demander à la fermer, Rémi Gerbet?
Vous pouvez demander. Ensuite, la problématique, c'est que comme vous êtes une personnalité publique et qu'il y a de la documentation vous concernant sur votre métier, votre expérience, votre travail, etc., etc., la communauté considérera que du fait de votre activité publique, il est important que vous ayez une page sur Wikipédia. Après,
donc la communauté, en quelque sorte, vote, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, se réunit, ça se passe à combien, en fait, de personnes, ce genre de truc?
Tout dépend. Tout dépend des articles, tout dépend des sujets. Mais effectivement, lorsqu'un article est proposé à la suppression, la règle en général, c'est que les contributeurs qui sont intéressés par le sujet viennent, débattent en page de discussion de l'article et puis finissent par voter pour le maintien ou non de l'article en question. Maintenant, sur la personnalité que pour créer un article, et l'autrice précédente en a effectivement parlé, il y a des critères d'admissibilité, que ce soit pour les personnes, que ce soit également pour les œuvres, que ce soit pour les bâtiments, etc. Il existe tout un tas de critères d'admissibilité. Et donc, déjà, il faut s'assurer que la personne pour laquelle vous voulez créer un article répond bien à ces critères d'admissibilité.
Et il doit avoir donc un minimum d'intérêt si je peux pas ouvrir une page wiki sur ma voisine du 3e, par exemple. C'est
exactement,
ça que ça veut dire.
Ça, c'est pas possible, effectivement.
Voilà. Elle va le regretter. On l'embrasse. Jean-Pierre, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Bon, moi c'était pour un biais de respectabilité que je trouve qui est en train de faire dériver Wikipédia de façon un peu académique. Quand j'ai participé au tout début à la création de petits articles, de vulgarisation, c'était assez simple et facile. Peu à peu, le souci de respectabilité a tendu un peu vers l'académisme. C'est gentil de vouloir être respectable, mais il y a des sujets qui s'y prêtent mal. Moi, je suis versé plutôt dans les sujets technologiques, donc pas très marrants, du genre isolation des bâtiments, réglage des chauffages. Et quand on fait des sujets comme ça, le plus souvent, le plus simple, c'est de traduire des articles sur Wikipédia anglais ou Wikipédia américain, ce que j'ai fait souvent avec bonheur. Et puis après, ça se développe parce que les sujets foisonnent de leur belle vie. Mais en même temps, il faut sourcer. Si on veut qu'un article prospère sur Wikipédia, il faut qu'il soit sourcé. Et quand c'est en français, pour qu'il soit sourcé, il faut qu'il référence à des textes universitaires. Et il se trouve que là, il y a un point aveugle, il y a un angle mort, il y a des tas de sujets, la famille des sujets que j'appelle technologiques, qui sont traités non pas à l'université, mais dans les entreprises ou les associations interprofessionnelles. Mmh. Et là, on n'est pas sourcé et on n'est pas légitime.
Et donc, ça rentre pas dans
Wikipédia. On se fait rabrouer. Mmh. Alors, on peut faire du forcing et tout, mais c'est lassant. Parce que la démocratie Wikipédia est une démocratie, elle n'est pas censitaire, mais elle est un petit peu au temps de présence.
Mmh. Oui, oui,
ceux qui sont toujours là ont toujours raison à la fin.
Les plus grands contributeurs, d'ailleurs j'avais quelques chiffres que j'ai trouvé plutôt intéressants. Il y a 4 millions de contributeurs en France d'après ce que j'ai cru comprendre. Il y en a 18 700 qui sont actifs et 8 000 qui le sont vraiment. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment des gens qui écrivent. Ça veut dire que la communauté des gens qui réfléchissent au problème de Jean-Pierre se réduit d'autant, y compris par rapport à l'intérêt du sujet. Et là aussi, on parlait de diversité tout à l'heure. Et, au fond, diversité des gens, diversité des genres, diversité de beaucoup de choses. Et aussi des thèmes. Est-ce que parfois, vous vous retrouvez de plus en plus heurté à des problèmes comme celui de Jean-Pierre? Il n'y a rien sur cette spécialité-là. Ça existe chez les anglo-saxons, pourquoi pas chez nous? Mais pas de source.
Oui, souvent c'est ça le problème, effectivement, ça va être le manque de sources, ça va être le manque de références, et comme la communauté se base sur la question effectivement de la notoriété du sujet et sur la capacité que de retrouver l'origine de chaque information présente sur Wikipédia, si au bout d'un moment les sources ne sont pas accessibles au grand public, évidemment on se retrouve face à un point de blocage qu'a pu rencontrer du coup effectivement l'auditeur.
Il y a beaucoup de thèmes comme ça, Marie-Noëlle Doutrex, qui sont compliqués parce que non sourçables.
Là, je dirais que dans le cas de ces technologies, le problème c'est qu'il y a énormément d'entreprises qui essaient de faire leur promotion sur Wikipédia, de promouvoir leur technologie, leurs matériaux, leur manière de faire. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a une méfiance de la part de la communauté envers les sources qui sont publiées par ces mêmes entreprises.
Parce que parfois, j'ai l'impression que vous êtes un peu l'arroseur arrosé, Rémi Gerbet. J'ai entendu en préparant cette émission, ce qui m'a laissé un peu les bras ballants, qu'on crée parfois de faux articles, de faux médias sur le net pour créer des articles, donc créer des sources, donc donner des références, donc faire entrer des gens ou leur technologie sur Wikipédia.
Oui, ça arrive. C'est vrai que maintenant, depuis 20 ans, les agences de communication, les grands groupes ont compris un peu le fonctionnement de Wikipédia et essaient de le contourner le plus habilement possible pour faire leur promotion. La communauté essaie de faire de son mieux, mais comme on rappelle, ils sont tous bénévoles et donc c'est vrai que ça leur demande beaucoup de temps, des fois, de remonter l'origine de l'information.
Vous savez contrer ça quand c'est un article qui n'est pas faux, mais qui a été créé pour l'occasion et pour servir de source? On sait le contrer, on sait le voir ou pas?
C'est tout à fait faisable. On peut remonter tout ce qui est adresse IP, par exemple, localisation, on remonte les sites, on contrôle si les sites, effectivement, ont l'air de sites fiables, officiels. Je sais que certains groupes de Wikipédiens organisent, par exemple, des mois anti-pub, ils appellent ça, c'est-à-dire que pendant un mois, ils se consacrent à essayer de remonter, justement, les articles qui sont un petit peu suspects, où les sources ne sont pas très claires, et essayer de voir derrière, en fait, si l'article est vraiment admissible ou non.
Moi, je suis fasciné en ce moment par le temps réel, en fait. Par exemple, est-ce qu'on sait, Marie-Noëlle Doutrex, qui contribue à l'article sur l'attaque du Capitole chez les Américains? Pour le coup, j'imagine que c'est là que ça commence dans ces moments-là. Parce que, à peine l'attaque a-t-elle commencé qu'une page existe déjà. Comment ça se passe, ça? Et surtout, comment on l'a fait évoluer, cette page-là, en fonction de qui l'ouvre? Si celui qui l'ouvre a des amis qui sont en train de rentrer, c'est pas la même page que si celui qui l'ouvre a des amis qui sont en train de se planquer sous les sièges. Comment ça se passe?
Alors, en l'occurrence, cette page, elle a été ouverte par elle a été créée par un contributeur wikipédien de longue date qui écrit sur divers sujets qui n'a rien à voir avec le Capitole ses assaillants. Donc, je parle de la page en français, la Wikipédia en français. Le plus grand contributeur.
Intéressant. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une page en français. Ça n'a pas été immédiatement une traduction d'une page américaine.
Pour les sujets d'actualité, c'est quand même plus rare. Les traductions, c'est surtout, par exemple, pour des notions scientifiques hyper spécialisées ou de toute façon, la recherche scientifique est faite malheureusement beaucoup en anglais, donc il y a beaucoup de traductions pour ces cas-ci. Pour l'article sur l'assaut du Capitole, le plus grand contributeur, c'est aussi un Wikipédien de longue date, tout à fait reconnu par la communauté. Ils contribuent avec leur pseudonyme habituel. De ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. On peut voir le nombre de contributeurs, il y en a eu plus d'une centaine. On peut voir le pourcentage de contributeurs non inscrits, enfin non enregistrés. Mais maintenant, cette page est aussi protégée Les contributeurs, oui. C'est au moment de l'actualité que les pages sont le plus susceptibles d'être vandalisées.
Est-ce qu'il arrive qu'un article comme ça, dans le feu de l'action et de l'actualité, soit écrit à plusieurs mains? C'est-à-dire que pendant qu'un commence, un autre, lui aussi, apporte un certain nombre de précisions. Est-ce que c'est forcément un seul contributeur ou est-ce qu'on peut écrire un papier à 5 contributeurs à la fois dans ces moments-là?
Non, on peut tout à fait écrire à plusieurs, hein, en fonction des sections de l'article, par exemple. Il y a plusieurs sections de l'article, les contributeurs peuvent s'organiser dire bah, moi j'attaque l'introduction et toi tu attaques la partie actualité, je sais pas, ça fait possible effectivement.
Si un site comme celui-là, une page comme celle-là, a déjà été fermée, comme vous le dites effectivement, dans les moments d'actualité chaude, est-ce que ça veut dire que dès le début de l'écriture d'un article sur ce genre de thème, on a vu apparaître des choses genre ce sont des patriotes qui cherchaient à rétablir Trump dans ses droits, est-ce que ça veut dire que tout de suite on voit apparaître ce genre de choses et donc c'est une sorte de bataille qui se fait tout de suite entre celui qui écrit et ceux qui essayent de rentrer, c'est immédiat?
Je pense. Et en l'occurrence, donc la protection, faut dire que ça ferme pas complètement l'article. Ça permet qu'il y ait que les contributeurs qui ont déjà un compte qui puissent modifier l'article. Et là, en l'occurrence, c'est un compte depuis plus de 3 mois.
D'accord. Et donc ça vient tout de suite. On voit arriver tout de suite sur la page quelqu'un qui va à l'inverse ou qui essaye de donner une autre narrative, en fait. Parce que ce qui est fascinant, c'est l'idée de la neutralité. Rémi Gerbet, ça fait partie des choses importantes chez Wiki. Mais au fond, c'est l'une des choses les plus compliquées, les plus difficiles, évidemment, la neutralité. Comment ça se règle à la fin? Par exemple, sur l'histoire du Capitole, comment on finit par déterminer quel est le mot que l'on emploie? Est-ce que ce sont des insurgés? Est-ce qu'on parle de sédition? Est-ce qu'on parle de terroristes? Comment on sait et comment on s'arrête sur un mot à employer dans un article comme celui-là, par exemple?
Là aussi, Wikipédia et la communauté est dépendante des médias. Globalement, c'est ce qui fait consensus dans les médias qui va servir de point de référence pour l'article. Globalement, sur Wikipédia, tous les sujets un peu polémiques doivent à un moment donné passer par ce fameux consensus, cette discussion communautaire qui va arrêter la forme d'un article. Par exemple, si on reprend le cas de la pandémie de Covid-19, où il y a eu énormément de désinformation là-dessus, la communauté a donc fait le choix de créer un article spécial qui s'appelle « Désinformation sur la pandémie Covid-19 » pour pouvoir mettre à un seul endroit tous les autres éléments, mais toujours qu'ils soient présents.
Est-ce que c'est une page fermée? Parce que sinon, on voit arriver les complotistes pour revérifier. C'est une page fermée, ça, par exemple, ou pas?
L'article qui concerne la pandémie de Covid-19 est effectivement une page protégée.
Comment on fait d'ailleurs pour... Les chiffres sont à jour sur Wikipédia. Et moi, j'ai lu quelque part que c'était un bot, là aussi, qui était capable de remettre les chiffres, notamment les chiffres français, à jour. Comment ça fonctionne, Marie-Annelle Dutrex?
Alors, il y a plusieurs chiffres qui sont mentionnés dans plusieurs articles différents, mais en tout cas, certains sont faits manuellement par des contributeurs et d'autres sont en effet faits par des bots. Ou sont envoyés.
C'était un bot brésilien, enfin, ça m'a laissé pantoise. Est-ce que c'était une fausse info ou une vraie info?
Alors, faut voir quel. C'est tout à fait possible.
Okay.
Il y a des bots qui peuvent être actifs sur des Wikipédia de langues différentes. Hein, ça s'est vu, c'est tout à fait possible. Après, moi, les chiffres que j'ai vus, ils étaient reliés à Wikidata. Donc, une base de données qui sert justement à actualiser des informations dans toutes les Wikipédia. Donc, ils peuvent être actualisés par, là aussi, des bots qui sont reliés à des bases de données institutionnelles et qui vont mettre à jour les chiffres.
Si les robots mettent à jour, est-ce qu'il y a une patte humaine à un moment qui vérifie que la mise à jour est la bonne? Est-ce qu'on a le temps de faire ça? Est-ce qu'on fait ça ou pas?
Ça dépend, mais effectivement, dans le cas de la pandémie de Covid-19, il faut savoir qu'il y a près de 280 contributeurs qui surveillent la page. Donc, effectivement, chaque jour, il peut y avoir plusieurs dizaines de personnes qui viennent jeter un coup d'œil et qui voient si la page est toujours en bon état. Donc, oui, ça peut se faire. Pas partout, bien sûr, mais ça peut se faire.
Fabien, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Fabien, allez-y.
Oui, donc, ma question, c'était, je sais plus le nom du fondateur de Wikileaks. Je sais que c'est quelqu'un qui est très impliqué dans les milieux libertariens, qui est issu de la Silicon Valley, à l'instar de Jeff Bezos, Mark Zuckerberg et d'autres milliardaires du milieu numérique. Donc je me demandais quelque part, est-ce que vraiment sa volonté profonde, c'est d'ouvrir le savoir à tout le monde, ou est-ce qu'il y a un calcul plus commercial, intéressé de peut-être arriver à long terme à établir un monopole sur le marché de la connaissance.
C'est Jimmy Wales, le nom que vous cherchiez probablement, et c'est une vraie bonne question que celle de Fabien Rémi Gerbet. À un moment, puisque vous êtes les seuls, vous possédez une forme de connaissance et donc celle qui est diffusée.
Oui, mais après, la sécurité, on va dire, c'est la licence qui est diffusée Wikipédia. Wikipédia est entièrement sous licence libre. C'est-à-dire que n'importe qui peut aujourd'hui copier tout ce qu'il y a dans Wikipédia et se créer sa propre Wikipédia personnelle, s'il en a envie. C'est entièrement possible. La seule condition, c'est de citer les auteurs. Ça en fait beaucoup à citer. Mais vous pouvez demain imprimer le livre de l'ensemble des articles Wikipédia et le vendre. Vous avez tout à fait le droit de le faire. Et donc, cela permet quand même de s'assurer que il n'y a pas de droit de propriété. La Fondation Wikimedia n'est pas propriétaire des contenus sur Wikipédia. Alors, on est responsable en tant qu'hébergeur, mais on n'est pas propriétaire.
Le contrôle et la diffusion de la connaissance avec un grand C, Marie-Noëlle Dutrex, est-ce que c'est un drapeau rouge dans ce genre de site?
Oui, pour rebondir sur ce qui a été dit... Oui, Wikipédia est gratuite, elle est libre, elle est restée fidèle à ça, mais c'est un peu un îlot non marchand dans le web marchand et qui d'une certaine manière lui profite. D'une part parce que son contenu est récupéré par des entreprises petites et grandes, par les GAFAM en particulier, notamment pour leur assistant personnel intelligent, c'est-à-dire que les enceintes connectées d'Amazon, Google, Apple, etc. vont se servir de Wikipédia, parfois, souvent, sans la mentionner. Donc ça peut en effet être un problème.
Pierre-Alain est là. Pardon Pierre-Alain, je vous écoute.
Oui, moi, justement, ma question, enfin, c'est très agréable d'utiliser Wikipédia parce qu'il n'y a pas de publicité et que on vous demande pas ensuite, on vous redirige pas vers des sites ou des sites marchands. Et donc, je me posais la question du modèle économique. Comment ça fonctionne et qui paye ça?
Rémi Gerbet, à part nous, qui paye?
Eh ben, c'est vous. C'est les dons que toutes les personnes font chaque année pour soutenir le projet Wikipédia. Quand vous voyez effectivement l'appel, le bandeau sur Wikipédia qui appelle à donner, cela sert effectivement à ça. Ce bandeau passe de pays en pays. Et au niveau mondial, quasiment, c'est plus de 85% des ressources du mouvement qui viennent de dons de particuliers.
Et ça marche bien ou pas? Marine Le Trex.
Oui, ça marche bien, mais après, pour tout ce qui est recherche et développement, il y a aussi des dons des GAFAM, $1 million, etc., chaque année pour Google, Amazon, etc. Enfin, chaque année, pas depuis l'origine, mais voilà, c'est aussi des dons qui comptent.
Ce qui nous ramène à la question de tout à l'heure et à la question de Fabien, en effet, sur une connaissance resserrée, finalement, qui ne sort pas, encore une fois, des GAFAM et de tout ce petit monde. Comment on fait pour éviter cela, pour s'extraire de ce piège-là, à votre avis?
Les interactions sont fortes et je pense que c'est difficile, d'autant plus que la Fondation Wikimedia, elle part au niveau des États-Unis, pas l'association en France, elle part dans des partenariats divers autour de nouvelles technologies, avec Google notamment, donc c'est plutôt quelque chose qu'il faut surveiller, mais les communautés wikipédiennes ont l'air quand même d'essayer de suivre ça de près, de vouloir avoir un esprit critique aussi par rapport à ces partenariats autour de l'intelligence artificielle avec des guillemets, ce genre de choses.
Ça veut dire que plus il y a de contributeurs, plus on évite effectivement ce genre de travers, mais plus aussi on accepte l'ouverture, y compris des thèmes dont certains de nos auditeurs nous ont dit qu'ils avaient du mal à les placer, moins on est face à ce genre de critiques, non, Rémi Gerbet?
Oui, tout à fait. De toute façon, le modèle Wikipédia repose sur l'engagement bénévole. Et donc, plus il y a de personnes qui participent, plus il y a de personnes qui contribuent, plus cela permettra au projet de rester fidèle à ses principes.
C'est un métier, contributeur pour Wiki? Est-ce qu'il y en a qui ne font que ça, en fait? Ça existe ou pas?
Non, aujourd'hui non, ce n'est pas un métier reconnu. Pourtant, je sais que le temps investi par ces bénévoles est extrêmement important et je pense qu'on leur doit toute notre connaissance.
Ben, comme vous dites, et pour tout leur travail, en tout cas, passionnante discussion. Je vous remercie vraiment beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à tous pour vos nombreux appels, comme d'habitude, et portez-vous bien.